Microéthique, l'anonymat des donneurs de gamètes est-il justifié?
Aujourd'hui, les dons de gamètes, spermatozoïdes ou ovocytes, se font sous couvert de l'anonymat, dans le but d'éloigner le donneur du projet parental et de l'écarter de toute responsabilité envers l'enfant. Mais l'anonymat empêche les enfants de connaître leur géniteur. Pourraient-ils avoir le droit de connaître l'identité de leur géniteur ou génitrice, tout comme les enfants adoptés sont autorisés légalement à connaître leurs parents biologiques? L'anonymat est-il réellement justifié? Depuis quelques années, le débat a été lancé au Canada sur cette question. Donc, quels sont les enjeux éthiques de l'interdiction de l'anonymat? Comment et pourquoi soutenir le droit aux origines? Donc, pendant cette émission, vous aurez l'occasion d'entendre la chronique de Marc Zafran sur l'histoire d'un mot. Il nous racontera l'histoire du mot « géniteur » qui nous écorche un petit peu les oreilles. En clôture de l'émission, on entendra la chronique de Daniel Weinstock qui nous parlera d'une publication récente dans le domaine de la justice linguistique. Microéthique est une émission de Radio Créum qui vous est présentée par Martin Blanchard et Margot Ruelland.
Merci Margot, et un petit mot sur la musique. Vous entendrez quelques pièces musicales durant cette émission. Elles sont toutes en diffusion libre, elles sont entièrement gratuites, et vous pourrez aller sur notre site internet, creum.umontréal.ca, pour télécharger les musiques. Nous allons maintenant entendre une entrevue que Verdi Travitsky a réalisée avec Olivia Pratton, lundi le 21 novembre passé. Olivia Pratton a demandé aux tribunaux en Colombie-Britannique de forcer la révélation de l'identité de son donneur de gamètes. Nous parlerons du jugement et de ses conséquences un peu plus tard en émission, mais auparavant, écoutons Olivia Pratton répondre aux quatre questions suivantes. Pourquoi demander aux tribunaux de légiférer sur l'anonymat des donneurs? En quoi est-ce important de connaître l'identité de son donneur? Pourquoi les familles résistent-elles à divulguer non seulement l'identité du donneur, mais la conception de l'enfant à travers un don? Et enfin, quelles sont les conséquences de l'interdiction d'anonymat? Écoutez bien attentivement, puisque c'est un montage d'une bonne conversation sur quelques minutes.
Les personnes souvent pensent que c'est vraiment facile d'avoir l'information, mais ce n'est pas le cas. On n'a pas le droit chez les docteurs, on n'a pas le droit à rien. Et c'est vraiment un principe. Je pense que j'ai le droit de choisir si je veux poursuivre l'information. C'est pas personnel à moi. C'est quelque chose qui est important dans toutes les familles. On voit un bébé, on pense à ce que ça regarde comme la mère ou le père. Et pour moi, je veux juste savoir où je viens d'eux. Et je pense que beaucoup... C'est important pour toutes les personnes. C'est une question d'identité. Je n'ai pas l'option de savoir et d'avoir des réponses à mes questions. Pour l'homme, d'avoir pas la possibilité d'avoir leur enfant, c'est une question de honte. Alors, on veut protéger ça. C'est souvent dans les familles où le père est infertile. C'est pas un problème quand c'est une femme solitaire ou un couple de femmes. Une relation entre les parents et leur enfant doit être honnête et ouverte. Et de commencer ce... relation de parents et enfants avec un mensonge. Ils pensent aussi que leur enfant va être « Ah, tu n'es pas mes parents » et c'est stupide. Les parents sont tes parents, ce sont les personnes qui sont là pour toi, ce sont les personnes qui te donnent l'amour qui est toujours vrai pour toi. Et même qu'ils sont ouverts avec moi, je ne veux pas dire « Oh, tu n'es pas mon père ». Jamais, jamais. Si un donneur n'aime pas penser que leur nom va être donné dans le futur, il ne devrait pas être un donneur. C'est simple comme ça. Ils font le choix. Alors, s'il n'est pas confortable que leur identité va être divulguée dans le futur, n'être pas un donneur. C'est super simple. Et c'est comment ça fonctionne dans les autres pays. Ils ont encore assez de donneurs.
Alors, pour répondre à cette question, l'anonymat des donneurs de gamètes est-il justifié? Nous avons invité trois personnes. Sylvie Brouillette, qui est mère d'un enfant conçu avec l'aide d'un donneur non anonyme. Elle n'est pas la mère biologique de l'enfant, c'est sa compagne, la mère biologique. Julie Cousineau, qui est boursière du réseau Apogée, stagiaire postdoctorale au centre de recherche du CHU Sainte-Justine, où elle travaille en collaboration avec le CREUM. Sa thèse qu'elle a complétée en juin 2011 portait justement sur la question de l'anonymat des donneurs de gamètes et d'embryons. Et Vardy Travitsky, professeur au programme de bioéthique de l'Université de Montréal et membre du comité exécutif du CREUM. Elle a publié plusieurs articles académiques et dans les médias publics sur l'anonymat des donneurs de gamètes. Alors, justement, Vardy, qu'on pourrait commencer avec vous. Est-ce qu'on pourrait revenir rapidement sur le jugement Pratten? Et est-ce que vous pourriez nous résumer rapidement ce qui s'est passé à l'issue de ce jugement?
Bon, Olivia est née en Colombie-Britannique pendant les années 80 par un don de sperme. Et comme adulte, pendant des années, elle a cherché à savoir plus à propos de son donneur. Son cas représente de milliers d'autres cas des individus conçus de gamètes dans le monde entier. On n'a pas les chiffres exacts, mais il s'agit de millions d'individus aujourd'hui. Et la plupart ne savent même pas qu'ils sont nés par un don de gamètes, mais ceux qui savent, pendant les dernières années, parlent beaucoup de leurs intérêts. Il s'agit d'un intérêt médical, avoir accès à une information sur notre origine génétique qui est bien pertinente pour le soin médical. Et il s'agit d'une question d'identité, du bien-être psychologique. Elle a créé, Olivia, un site web pour les enfants comme elle. Et elle dit quelque chose de très touchant sur le site web. Elle dit « J'invite tout le monde à imaginer qu'un jour, vous découvrez que le père qui vous a élevé, que vous aimez, n'est pas votre père biologique, que vous êtes très curieux d'en savoir plus, mais que l'État vous dit que vous n'avez pas droit, que vous n'avez pas le droit d'accès à cette information. » Donc, elle est en colère. Le docteur dans la clinique de la procréation assistée lui a dit qu'il a détruit le dossier. Donc, je crois qu'elle a pris son cas à la Cour suprême, pas vraiment pour elle, mais pour l'avenir, pour les générations des enfants à venir de la même technologie.
Et Julie Cousineau, est-ce que vous pourriez nous rappeler plus précisément ce qui a été décidé à l'issue de ce jugement et si vous pouvez en même temps rappeler quelle est la situation légale du point de vue du droit au Canada?
Oui, effectivement. Donc, le jugement Pratten, qui est très, très intéressant, effectivement, a été le premier recours collectif canadien qui visait à abolir l'anonymat des dons de gamètes. Donc, par gamètes, on entend sperme, ovule. Ça peut aussi éventuellement viser les dons d'embryons. Ce jugement a de particulier qu'il a reconnu un droit d'égalité, donc qu'il y avait une discrimination entre les enfants qui sont adoptés, qui avaient accès à beaucoup plus d'informations, incluant l'identité de leurs parents biologiques comparativement aux enfants qui sont nés en contexte de procréation assistée. Donc, ce que le jugement Pratten a fait, donc ce jugement de la Cour suprême de Colombie-Britannique, qui est un jugement de première instance, a reconnu ce droit à l'égalité en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce jugement-ci, par contre, il faut faire attention, il est présentement en appel. Donc, il fallait s'y attendre que ce soit porté en appel. On va voir éventuellement quel impact ça aura, si ça sera reconnu, et même éventuellement quel impact ça aura sur les autres provinces canadiennes, incluant par exemple le Québec. Quelle est la situation au Québec? Au Québec, la situation est la suivante. On est dans un état d'anonymat total. Donc, on dit dans la loi que les informations qui sont liées à un don en contexte de procréation médicale, donc qui sont faites en clinique de fertilité, sont totalement confidentielles. La seule possibilité de pouvoir obtenir de l'information, c'est d'obtenir des renseignements qui sont de nature médicale à la condition qu'on obtienne l'autorisation du tribunal s'il y a un risque de maladie, s'il y a un risque qu'il y a une maladie grave pour l'enfant lui-même. Donc, l'information est donnée sous autorisation par un intermédiaire, parce que l'information n'est pas donnée à l'enfant directement, elle est donnée au professionnel de la santé, et encore là, lui ne reçoit aucune information nominative. Ce qui est intéressant, c'est que, en plus, au Québec, on n'a aucun lien de filiation qui est prévu entre ce donneur de force génétique et l'enfant. Donc, c'est le premier contexte où on a de l'anonymat des dons de gamètes. Deuxième contexte qui est un peu plus différent, c'est celui où notre autre invité intervient, c'est celui où on a dans un contexte plus privé. Donc, à ce moment-là, c'est différent. Ça dépend de la volonté des parents. Néanmoins, on reconnaît quand même encore à ce niveau-là qu'il n'y a aucun lien de filiation, à la condition qu'on se soit très bien entendu. Sinon, le donneur peut revenir après un an pour essayer d'avoir un lien de filiation. Donc, il faut faire très attention.
Je voudrais passer la parole à Xavier Land. Il y a des personnes qui assistent à l'enregistrement avec nous. Et Xavier Land a levé la main pour poser une question. Et alors, Xavier, c'est à toi.
Oui, j'aurais juste une question sur la procédure d'appel qui a été lancée contre la décision de la Cour suprême de Colombie-Britannique. Qui a fait appel et en vertu de quel argument juridique?
Alors là, vous me posez une question à laquelle je n'ai pas réponse. L'appel a été porté par les autorités de Colombie-Britannique. Je crois que Vardit a plus de détails que moi à ce niveau-là.
L'appel a été porté par le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, et l'argument était que le juge n'a pas bien interprété la loi. Donc c'est un argument juridique pur qu'il faut réévaluer l'interprétation de l'application de la charte par rapport à ce cas.
Si je peux ajouter, ce qui va être intéressant de voir, c'est que compte tenu du fait que c'est un jugement de première instance de Colombie-Britannique, il n'a pas d'impact direct, n'a pas d'application au Québec, mais compte tenu que c'est une interprétation du texte constitutionnel pan-canadien, éventuellement, s'il y avait un recours au Québec, on pourrait peut-être voir effectivement, en faisant une analyse, par exemple, de droit comparé avec ce qui se passe dans les autres provinces au niveau d'une interprétation de notre texte fondamental, comment ce serait repris au Québec.
Sylvie Brouillette, quelle position vous adoptez dans ce débat? Enfin, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous préconisez plutôt une levée de l'anonymat, une interdiction de l'anonymat des donneurs? Et comment est-ce que ça s'est passé avec le donneur pour votre enfant?
J'ai pas encore de position hyper... je suis comme en train de réfléchir à la question pendant qu'on en discute, là. C'est assez nouveau pour moi, ça... ces questions légales, là, même si j'ai été aussi là-dedans, peut-être j'ai l'impression que peut-être la levée de l'anonymat défavoriserait les familles qui voudraient avoir des enfants, qu'en fait, les donneurs seraient beaucoup moins volontaires à y aller. Il y aurait probablement plus d'hésitation. Donc, moi, je serais vraiment plus pour une façon, un arrangement légal à libérer ces informations-là, pour que l'enfant y ait accès, parce que c'est sûr, c'est clair que c'est comme un gros avantage dans la vie de connaître tes racines. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit dans l'entrevue par rapport à commencer sa relation avec son enfant par un mensonge. Par exemple, moi j'ai une amie qui a découvert que son père n'était pas son père quand elle avait 15 ans. Sa mère lui a dit « En fait, l'oncle qui vient nous rendre visite des fois, c'est ton père ». Et avec qui elle avait une très chouette relation, là. Puis à partir de ce moment-là, elle a commencé à l'appeler son sperme. Elle l'appelait comme ça, puis elle est devenue comme ça, elle l'a rendue complètement agressive. Et c'est pour ça que moi, mon enfant est encore petit, mais qu'on a décidé, nous, de lui dire, déjà tout petit, de lui raconter son histoire pour que ça fasse pas comme... c'est ça, pour être dans le vrai.
Je voulais juste ajouter que la petit peu de recherche qu'on a, la recherche empirique, montre que plus tôt dans la vie d'un enfant qu'on dit la vérité, mieux le résultat psychologique. Donc, ce qu'on vient d'entendre de Sylvie est basé sur un petit peu d'évidence aussi.
J'aimerais revenir sur quelque chose que Sylvie a dit aussi et savoir s'il y a de la recherche là-dessus. J'imagine qu'il y a des pays qui permettent de lever l'anonymat. Est-ce que ça occasionne une baisse des donneurs? Est-ce qu'il y a moins de donneurs? Julie veut répondre, oui.
Par exemple, au Royaume-Uni, en 2004, on a eu une abolition de l'anonymat. En Suède, en 1984, on a observé au départ une baisse du nombre de donneurs. Mais il faut faire attention, c'est un argument qui est véridique, mais seulement à court terme, parce qu'en fait, ce qu'on a observé dans ces pays-là, c'est un changement de profil des donneurs. Donc, le nombre de donneurs a fini par remonter. Ce qu'on voit, c'est par exemple, au lieu d'avoir le cliché, pardon, si je peux utiliser cet exemple-là, de l'étudiant en médecine qui va aller faire des dons de sperme, si c'est rémunéré, par exemple, pour payer ses études, c'est vraiment l'exemple le plus cliché qu'on peut trouver. Mais ce qu'on voit, c'est à partir de là, ce sont plus, par exemple, des hommes plus matures, donc qui se trouvent dans une tranche d'âge beaucoup plus avancée, qui ont déjà des enfants, qui savent les implications des dons. Puis souvent, ils font ça parce qu'il y a eu, par exemple, il y a eu de l'infertilité dans leur famille. Donc pour eux, c'est un juste retour des choses. Donc on voit un changement du profil des donneurs, pas tant qu'une diminution. Sur le coup, ça peut arriver sur le coup parce que l'abolition de l'anonymat peut faire peur, mais il y a quand même une acceptation au sein de la population avec le temps qui s'installe.
Ce que Julie vient de dire est lié à une chose que Olivia a dit dans l'entrevue, le fait que le don n'est pas un acte qui est fini en une fois. C'est un acte de commitment qui crée une responsabilité pour le reste de la vie du donneur. Les donneurs dans les pays où l'anonymat a été interdit savent à l'avance, dès le départ, qu'à peu près 19 ans plus tard, ils peuvent être contactés par un individu qui va vouloir peut-être avoir une relation. Et c'est quelque chose qu'ils prennent en considération au moment du don. Et donc, évidemment, ça change le profil, mais ça change aussi la nature du don.
J'ai une autre question de l'assistance, et cette fois, c'est Paul Lebas qui va nous poser une question. Paul?
On parlait tout à l'heure de la filiation. Il me semble qu'il y a un argument qui revient souvent contre la levée de l'anonymat, c'est la menace que représenterait cette levée pour le lien de parenté existant. Et j'aimerais connaître votre position sur cette question-là. Il ne me semble pas que ça remet forcément en cause la filiation de fait existante, et que la recherche du géniteur, du donateur, me semble pas forcément systématiquement être une recherche du vrai parent.
C'est une question qu'on connaît bien depuis des années dans le contexte de l'adoption. Parce que l'adoption était fermée, c'est créé aujourd'hui dans la plupart du pays, légalement c'est un processus ouvert. Est-ce que ça crée une menace pour la relation de l'enfant adopté avec ses parents? Moi je trouve l'usage de vrais parents très problématique dans ce contexte. On a un parent, comme Olivia dit, qui nous a élevés, qui nous a aimés, c'est notre parent. Et puis il faut créer, à mon avis, un espace terminologique, social, pour un autre individu qui est impliqué dans le processus, mais qui n'est pas un parent. Il faut chercher le bon terme et il faut créer une acceptance sociale normative pour cet individu, mais ce n'est pas un parent et c'est sûrement pas le vrai parent.
Julie, tu voulais rajouter quelque chose?
Verdit a totalement raison. Il y a une confusion terminologique qui est extrêmement importante. Faut faire attention à ce niveau-là. Quand les enfants disent « je veux connaître mon parent biologique, mais j'ai déjà un parent, je ne veux pas le remplacer ». Et la filiation, qu'est-ce que c'est? Au niveau du droit à la filiation, c'est ce qui crée un état entre un ascendant et un descendant. Il peut être lié par le sang, peut être lié biologiquement ou pas, mais c'est ce qui fait en sorte qu'on crée des droits et des obligations d'une personne envers l'autre. Donc, du point de vue du droit, ce n'est pas un parent. Donc à ce niveau-là, il faut faire très attention à la terminologie employée. Qu'est-ce que c'est un parent?
Merci. On va maintenant laisser la parole à Marc Zafran, qui va nous parler du mot « géniteur ».
Ben, j'ai préparé ma petite chronique un peu à l'aveugle, mais je vois qu'elle tombe tout à fait à propos, et vous allez voir pourquoi. Donc le mot « géniteur » est, dans l'édition 2011 du Petit Robert, défini comme étant premièrement la personne qui a engendré, autrement dit le parent, ou deuxièmement un animal mâle destiné à la reproduction. Étymologiquement, « géniteur » vient du latin « genitor », qui veut dire « père », justement, et appartient à la vaste famille des mots issus du mot latin « gens gentis », qui signifie peuple ou race. Le mot géniteur ou génitrice est un mot qu'on utilise surtout de manière péjorative pour désigner le parent que l'on n'apprécie pas trop, mon géniteur, ma génitrice, le père de passage surtout. Et on l'utilise aussi pour traduire la terminologie anglaise biological father ou biological parent. Mais le mot géniteur ne peut pas vraiment être utilisé, on l'a entendu, en parlant d'un donneur de sperme ou d'ovocytes. Le donneur de gamètes donne la moitié de son bagage génétique, mais ce n'est pas un parent, à moins que l'enfant devenu adulte ne prenne contact avec lui et lui demande explicitement de jouer ce rôle. Donner du sperme ou un ovocyte, ça n'est pas anodin. Le donneur permet à un couple d'avoir un enfant, mais ça lui permet à lui ou à elle aussi de se projeter dans la génération suivante, et parfois sous la forme d'une progéniture nombreuse. Ce n'est pas rien pour les personnes engendrées et pour leurs parents, ce n'est pas rien non plus pour celui ou celle qui a permis de les engendrer, car en ce faisant, il ou elle transmet très efficacement ses gènes égoïstes, pour reprendre l'expression de l'évolutionniste Richard Dawkins. Il faudrait donc utiliser, pour nommer correctement le donneur de gamètes, une expression qui suggère cette ambivalence. Père génétique ou mère génétique, c'est pas juste, parce que l'homme qui engendre un enfant par les moyens naturels et qui l'élève est son père génétique, la mère aussi. Père biologique, c'est un anglicisme assez idiot, tous les pères sont biologiques, je connais pas de père mécanique ou de père minéral. Père générique, ça fait un peu industrie pharmaceutique. Engendreur, c'est pas beau. Gamétophore, littéralement, qui porte les gamètes, c'est moche. Et puis, faut-il inventer un mot ou utiliser ceux qui existent déjà? Justement, il y a un adjectif, lui aussi venu de la racine gens gentis, qui pourrait représenter assez bien la position du donneur de sperme ou du donneur d'ovocytes. En l'accolant au mot égoïste, il forme une expression qualifiant un individu à la fois altruiste et intéressé, pour qui rien n'est obligatoire, mais par qui tout est possible. Alors que diriez-vous si pour désigner l'homme ou la femme qui donne la moitié de ses gènes, on disait simplement « ce sont des égoïstes généreux ».
Merci beaucoup Marc, merci de ta proposition, elle est assez intéressante. Évidemment, il y a un petit paradoxe dans l'idée d'être un égoïste généreux.
Oui, mais généreux renvoie bien à la notion de gène. Hein, le généreux, c'est celui qui est de bonne... Généreux, ça veut dire qui est de bonne origine.
J'aimerais rebondir là-dessus et demander à Sylvie, comment ça se passe, Sylvie, dans ta famille? C'est-à-dire, comment nommez-vous, toi, l'enfant, ta compagne, comment nommez-vous l'égoïste généreux de votre famille?
Ouais, ça a été, ouais, c'était drôle même pendant. C'est des questions qu'on se posait, c'est intéressant. C'est quelque chose avec lequel on n'est pas du tout encore très à l'aise. Puis tu sais les gens, des fois les gens qui sont en clinique de fertilité vont parler de leur donneur comme 913-34B là. Ou tu sais, il y a cette blague là. Nous, on savait c'était qui, mais en même temps son rôle était pas. C'est comme il y a comme un petit flou. Fait que on l'appelle encore. L'ami qui nous a aidés, quand on en parle avec notre fils, on dit l'ami qui nous a aidés à faire un bébé. Entre nous, on l'appelle, et avec nos familles, nos amis, on l'appelle notre donneur. Et souvent, à la blague, on l'appelait notre bénévole, parce que ça prenait beaucoup de... parfois, il y avait beaucoup de visites et c'était beaucoup de temps à investir.
Et pour continuer un peu, pour comprendre un peu l'histoire, quelle est la place du donneur dans la famille?
Vous allez encore me trouver un peu évasive peut-être là-dessus. On voulait pas nécessairement. C'est que ça reste des choses à construire et que j'accepte de penser qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas nécessairement de contrôle, genre qui dépendent aussi de comment. En tout cas, je vais essayer d'être plus claire, de comment mon fils va le vivre plus tard, de son désir d'être en lien avec son père biologique et tout ça. Mais je veux dire, le donneur est pas... C'est plus important par rapport à lui, à mon fils, que par rapport à moi, tu sais. Je veux dire, j'imagine pas qu'on va faire Noël ensemble parce qu'il y a ce lien génétique qui est là. Je vois plus ça comme si... il y a quelque chose qui se crée, un lien, ça va être en dehors de moi, je vais le favoriser et je peux être étonnée, mais je vais pas non plus, c'est pas quelque chose auquel je tiens, je veux pas qu'il y ait une relation père-fils nécessairement. Ma famille est déjà complète comme ça, mon fils a déjà deux parents, mais je suis très contente qu'il ait accès à ça. Donc,
ouais.
C'est à peu près
comment,
ça.
Comment il réagit actuellement, l'enfant? Est-ce qu'il y a... Quel âge a-t-il, premièrement, comment parle-t-il de tout ça?
C'est drôle. Ça commence un petit peu, mais il y a 3 ans et demi. Il n'y a pas beaucoup de mots pour dire les choses, pour les exprimer clairement. Mais il sait, par exemple, que les autres enfants de la garderie n'ont pas de papa et que lui a deux... ont des papas et que lui n'en a pas, que lui a plutôt deux mamans. Et souvent, je sais pas, il a commencé... Puis, en fait, on en parle librement, puis on lui demande, on vérifie un peu. On lui demande s'il sait, puis qu'il n'y a pas de papa, puis on lui demande si c'est correct pour lui, puis il dit oui, oui, puis là, on lui raconte un peu l'histoire, donc, tu sais, c'est ça, c'est comme pas encore très... puis des fois, comme on dirait qu'il fait de la provoque, il va venir me voir, puis il va dire « Allô, papa! » Là, je suis comme « t'es sûr? » Là, je sens que ça s'en vient bientôt, mais je peux pas dire vraiment comment... Je sais qu'il vit très naturellement, puis qu'il m'a jamais dit que ça lui manquait. Parce que je pense qu'il est bien, là, mais j'ai l'impression que les questions vont arriver bientôt.
Pour revenir à la question de la terminologie et l'importance de la terminologie, on a des résultats de recherche qui ont été faits où des parents ont été demandés par les chercheurs quelles sont les raisons derrière leur difficulté de discuter ce sujet avec leurs enfants et de divulguer la vérité à propos de circonstances de la conception. Et la première raison donnée était... On n'a pas les mots. On ne sait pas comment communiquer cette information. Et je trouve que c'est fascinant parce qu'on parle beaucoup du menace, de si mon enfant sait, il ne va pas me voir comme un parent. Mais avant ça, il y a juste une difficulté presque terminologique. On n'a pas encore développé la langue pour parler entre nous comme adultes. Alors imaginez la difficulté à parler à un enfant de 3 et 4 ans.
Il y a une question encore de la salle et cette fois, ce sera... à Agnès de la poser.
Merci. Dans ce débat, on entend beaucoup parler de comment qualifier en fait le donneur, et c'est vrai que ça fait appel à des questions, peut-être la levée de l'anonymat fait appel à des questions de responsabilité peut-être qu'on donnerait au donneur auprès de l'enfant, ou même tout simplement, plus simplement et plus basiquement, des questions d'héritage que l'enfant pourrait effectivement réclamer auprès de ce géniteur, enfin, ou égoïste, généreux, comme on a dit tout à l'heure. Mais d'un autre côté, la question moi, que je me pose, c'est la différence qu'on fait intervenir entre des enfants qui ont été conçus grâce au don d'un donneur anonyme, comme dans le cas de Sylvie, où les parents détiennent les clés, donc ils savent très bien à qui a été le géniteur qui a fait don pour que cet enfant soit au monde, et des enfants qui se trouvent dans l'incapacité aujourd'hui, parce qu'ils ont été conçus dans le cadre d'une clinique de fertilité d'un donneur, de connaître la vérité. Donc est-ce qu'on ne fait pas intervenir finalement aujourd'hui, alors qu'il y a deux manières de concevoir un enfant, une manière connue, une manière plus non connue, est-ce qu'on ne fait pas tout simplement intervenir des questions d'égalité entre des enfants qui ne détiendraient pas les mêmes informations? Est-ce que ce n'est pas finalement la question qu'on devrait se poser plutôt que celle du donneur en tant que tel et de qui il est, de quel droit il aurait par rapport à l'enfant?
Merci Agnès, j'ai retrouvé ma mémoire, c'est Agnès Berthelot-Raffard, je l'avais complètement oublié tout à l'heure, merci beaucoup. Julie voudrait réagir sur cette question.
Bien, à ce niveau-là, il faut faire très attention parce que déjà, en partant, cette notion d'inégalité ou de potentielle discrimination entre un enfant qui est né dans un contexte où on a un donneur connu, donc dans le cas d'une donation, pas d'une donation qui est faite en contexte privé, ce que nos politiciens ont appelé de façon très amusante la procréation amicalement assistée, au lieu de la procréation médicalement assistée. Mais même dans le contexte de la procréation médicalement assistée, si on regarde les dispositions législatives qu'on a eues, parce qu'on avait la loi canadienne sur la procréation assistée qui était dont les dispositions qui concernaient les dons de gamètes ont été remises en cause par le Québec pour des questions de partage de compétences. Malheureusement, ça a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême du Canada en décembre 2010. Mais ce que la loi canadienne disait, c'était que l'enfant, le donneur pouvait choisir ou non, pouvait choisir d'être anonyme ou non. Et à ce moment-là, les parents pouvaient choisir un parent anonyme ou non. C'était ce qu'on appelait le système du double guichet. Ce système du double guichet, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il crée une discrimination même à l'intérieur même du type de procréation. Pourquoi? Parce que on a les parents qui choisissent un donneur anonyme et des parents qui choisissent un donneur non anonyme. Donc, au-delà de la distinction entre procréation médicalement assistée et amicalement assistée, dépendamment du type de législation qu'on adopte, on peut avoir une discrimination potentielle. Donc, ce sont des distinctions qui sont extrêmement intéressantes et auxquelles il faut faire attention.
Oui, c'est absolument vrai. Et en plus, aux États-Unis, les grandes banques de sperme aujourd'hui offrent souvent deux trajectoires, anonymes et non anonymes. Et les statistiques nous montrent que plusieurs parents hétérosexuels choisissent l'anonymat, tandis que le couple lesbien et homosexuel choisissent le non-anonymat. La raison est assez claire. Dans les familles où on a deux mamans ou deux papas, les questions vont surgir de toute façon et les réponses vont être données. Donc, pourquoi ne pas avoir le bien-être psychologique et médical de l'enfant au cœur et garantir l'accès à l'identité même du donneur?
Il y avait une question que Margot, tu souhaitais poser.
Avec Julie, on en avait un peu parlé. Parce qu'on compare souvent les enfants conçus par des donneurs, grâce à des donneurs, et avec les enfants adoptés. Mais est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre l'abandon par des parents biologiques et le don de gamètes? Est-ce que sur le plan éthique, il n'y a pas quand même une distinction à faire entre les deux types d'enfants?
Ben, d'abord, ce qu'on peut dire, ce qui est très intéressant, c'est que le jugement Pratton se base sur cette un peu sur la distinction entre enfants qui ont été adoptés et enfants qui sont conçus dans le cadre d'une procréation assistée. Donc déjà, par exemple, en Colombie-Britannique, on réfute cet argument de distinction entre le rapport à l'abandon. Et par contre, il y a toute une littérature qui existe à l'effet qu'il n'y a aucun rapport à faire entre l'adoption et la procréation assistée. Pourquoi? Parce que ces auteurs-là, ce qu'ils disent, c'est qu'en contexte d'adoption, il y a un abandon, donc il y a un abandon d'un enfant en contexte de procréation assistée, mais il n'y a pas d'abandon. Est-ce qu'on abandonne du sperme ou est-ce qu'on abandonne des ovules? C'est un don d'engendrement. Donc, il y en a qui disent, ils vont dire que c'est un don de vie. Donc, ce n'est pas un enfant qui est né, qui a été abandonné. On a donné pour créer la vie dans un couple où cet enfant-là est extrêmement désiré. Donc, du côté de l'adoption, il y a un enfant qui a été abandonné parce qu'il y avait pour X, Y, Z raison, une incapacité de le garder ou un non-désir de le garder, alors qu'en contexte de procréation assistée, l'effet serait tout à fait inverse. On dit, ben non, on a en face de nous un couple, ça peut même être une femme seule, hein, parce que les femmes seules ont accès aux dons de gamètes. L'enfant est extrêmement désiré, donc il y en a qui disent que le débat n'a pas lieu d'être, alors que pourtant, dans le jugement Pratton, on se base sur la distinction entre enfant adopté et enfant né d'une procréation assistée.
Point de vue du projet parental, c'est absolument un enfant non désiré, si on peut dire, et un enfant extrêmement désiré. Mais du point de vue de l'enfant, dans les deux cas, l'enfant veut savoir son origine génétique. Et j'ai même entendu des individus conçus par don de gamètes expriment le sentiment que le donneur les a abandonnés. Dans le sens que comment cette personne qui a été responsable pour ma création n'a pas intérêt à me connaître, à savoir qui je suis, à suivre un petit peu ma vie. Donc, c'est peut-être une nouvelle idée pour nous, mais il y a un sentiment d'abandon, même pour les enfants conçus par la procréation assistée.
Merci. Et on passe maintenant à Charlotte Gainsbourg, qui nous fait cette chanson « Attendez que je retrouve dans mes choses ». Elle est quelque part. Voilà « Trick Pony » de Charlotte Gainsbourg.
Cold and tea, shake, shake, sugary. coughing, transatlantic. There's no one there. It's no cold comfort with your conscious calling. XXDRs, CC rider riding from the morning tide to the far horizon. Sick, sick the wolves and hope they don't get ugly. Your trick pony.
Dans ces débats, c'est revenu un peu pendant la discussion, notamment avec la question de Paul Lebas. On a parlé des origines et je voudrais maintenant parler du problème du fait que les couples cachent la procréation de l'enfant, tiennent le recours au donneur secret. Et qu'est-ce qui justifie cela? Pourquoi est-ce que, enfin, est-ce que il n'y a pas une peur de la part des parents, une sorte de tabou de la filiation qui rentre aussi en jeu dans cette question de l'anonymat des donneurs?
Il y a un tabou, c'est sûr. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour l'homme, ça peut être une atteinte à sa virilité. Parce que la crainte qu'ont les parents, oui, c'est une peur de l'intrusion du donneur dans leur vie, mais c'est pour ça que c'est aussi important qu'il y ait une disposition législative comme celle qu'on a au Québec qui empêche justement qu'il y ait un lien de filiation qui s'établit, du moins quand on est en contexte de procréation médicalement assistée, quand on est dans un contexte plus intime. Effectivement, il y a toujours une possibilité après un an, mais si on s'est clairement entendu, le délai est de seulement un an, puis si on s'est clairement entendu, il n'y a pas de recours qui va se faire. Effectivement, on peut avoir peur. Le constat lié au fait que les parents ne le disent pas, c'est que il y a certaines études qui ont constaté que quand l'anonymat est aboli, les parents ne disent pas à l'enfant comment il a été conçu, justement parce qu'ils ont peur que cet enfant exerce son droit aux origines. Par exemple, c'est un constat qu'on a fait en Suède. En Suède, il y a très peu d'enfants qui exercent leur droit aux origines. Pourquoi? Parce qu'au fond, les parents ne disent même pas à l'enfant comment il a été conçu, ce qui fait en sorte que la question de l'anonymat des dons de gamètes se divise en deux. Ça se divise en deux dans la mesure où il y a toute la notion de secret qui concerne la relation entre le parent et l'enfant et toute la notion de identité qui concerne l'autre relation entre le donneur et l'enfant lui-même. Donc, la problématique est coupée en deux, mais le secret, dans la loi, du moins, on n'impose pas aux parents de dire à l'enfant comment il a été conçu. Ça fait partie de sa sphère privée. Donc, on considère que d'imposer ça, par exemple, en inscrivant sur l'acte de naissance comment l'enfant a été conçu. Par exemple, d'inscrire, on aurait sur les actes de l'état civil que l'enfant a été conçu par don de gamètes. On trouve que c'est une trop grande intrusion dans la sphère privée des parents. Donc, le secret n'est pas un droit. Il faut faire attention. Il n'y a pas de droit au secret qui existe. C'est un privilège. C'est un privilège des parents qu'ils exercent. Ce qu'il faudrait éventuellement, si on décide d'abolir l'anonymat, ce serait parallèlement de mettre un très fort processus d'information pour inviter les parents à divulguer à l'enfant comment il a été conçu pour que cet enfant-là puisse exercer son droit aux origines.
De la même manière qu'on a dit tout à l'heure que Olivia Bratton disait si quelqu'un ne veut pas assumer la responsabilité d'être connu comme parent donneur, alors à ce moment-là, il ne faut pas qu'il soit un donneur. Je dirais que moi, ce qui me semble tout à fait aussi évident, c'est que si des parents veulent concevoir par procréation assistée, je dirais que c'est la même chose que pour l'adoption. S'ils ne sont pas prêts à dire à leur enfant qu'ils ne l'ont pas conçu de manière entre guillemets standard, il ne devrait pas être autorisé à le faire. Je justifie cette position de la manière suivante. Le secret, là, On sait que plus on annonce tôt à un enfant la vérité, mieux ça se passe. Le secret, là, il est néfaste à tout point de vue. Il est néfaste sur le plan psychologique, il est néfaste par rapport à la confiance que le parent peut avoir envers ses parents, et il est néfaste sur le plan médical, parce que évidemment, on ne peut pas savoir quelles peuvent être les conséquences médicales pour un enfant de ne pas connaître son origine. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, par exemple, vous êtes porteur potentiellement d'un gène qui n'est peut-être pas délétère pour vous, mais qui peut être délétère pour la génération suivante, c'est-à-dire pour les enfants que vous aurez avec quelqu'un d'autre. Si vous ne savez pas que le donneur dont vous êtes issu est un donneur, par exemple, qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de gamètes, et que vous êtes potentiellement susceptible de rencontrer une personne avec laquelle vous allez procréer, qui sera peut-être un frère ou une sœur, je veux dire, ça a des conséquences considérables. Et là, ce n'est pas l'anonymat du donneur qui est responsable. Là, c'est le silence des parents. Donc je dirais qu'effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Si l'anonymat est élevé, il ne faut pas laisser le pouvoir simplement dans la main des parents. Les parents qui veulent avoir des enfants et les élever, ils doivent aussi s'engager à donner toutes les informations à leur enfant. Parce qu'on ne peut pas demander moins à des parents que ce qu'on demande à un médecin qui se voit confier la vie d'un patient, c'est-à-dire de lui dire toute la vérité le concernant.
Le problème majeur à l'intérieur de ça, c'est quand on parle de l'autonomie de l'enfant, parce qu'on a entendu Olivia Pratton qui a dit « si mon donneur ne veut pas qu'on divulgue mon identité, il y a juste à ne pas donner de sperme. » Donc le donneur a le choix, avant d'embarquer dans le processus, les parents peuvent avoir le choix, mais où est le choix de l'enfant là-dedans? Donc, elle veut ce qu'elle demande, c'est qu'elle puisse exercer son choix dans la mesure où on donne le droit. Si on lui donne le droit aux origines, elle veut pouvoir dire, moi, je choisis ou pas de connaître l'identité de mon donneur, dans la mesure où l'enfant ne choisit pas de naître dans un contexte de donneur, par exemple, anonyme, bien, son autonomie éventuelle est complètement absente.
Oui, j'aimerais entendre Vardit sur cette question, parce que vous utilisez une expression, vous parlez de paradoxe du lien génétique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond?
Il y a la question de l'importance ou le poids ou le sens qu'on donne au lien génétique qui est derrière tout ça. Et je trouve que c'est intéressant que quand un couple va avoir recours à la procréation assistée, une des raisons principales est de garder le lien génétique avec au moins un parent. Si c'est un don de sperme, c'est la mère qui va être la mère génétique. Si c'est un don d'ovule, c'est le père qui va être un père génétique. Et c'est une grande partie de la motivation du projet même. Mais une fois l'enfant est né, le menace, la difficulté de communiquer, fait qu'on change l'histoire. Et tout d'un coup, on se dit, non, le lien génétique ne compte pour rien du tout. C'est que l'attachement. Ça ne fait pas du mal à notre enfant de garder le secret parce que ça ne change rien. Parce qu'il n'a pas besoin de savoir, il a déjà deux parents qui l'aiment. Donc, on joue avec le sens de ce lien génétique dans les étapes différentes de ce projet parental par rapport aux difficultés qu'on a.
J'aimerais entendre Sylvie sur cette question-là. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à dire ici, puisque... vous, Sylvie, vous auriez pu adopter, toi et ta compagne. Vous avez choisi de ne pas adopter. Alors, donc, vous avez choisi de conserver ce lien génétique-là. Mais en même temps, en choisissant aussi la voie du non-anonymat, puis de tout révéler, etc., vous choisissez aussi là, d'avoir une histoire compliquée un peu, qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent là-dedans.
Mais oui, dans le cas de pour ma conjointe à ce moment-là, c'était le désir aussi d'enfanter, là, de porter l'enfant. Moi, j'aurais adopté. Là, si on m'avait donné la possibilité, j'aurais fait « on adopte ». Mais bon, il y avait ça, cette idée-là. Et puis, tu sais, c'était vraiment intéressant ce que tu disais, Vardit, parce que tu disais « on se raconte des mensonges et on joue là-dedans ». Mais même pour nous, on joue aussi là-dedans. Tu sais, je me rappelle, avec ma conjointe, tu fais des... T'sais, elle me disait « je trouve ça le fun, vous avez un peu les mêmes cheveux, toi et le donneur. » Et c'est impossible, on le sait que je ne fais pas partie de l'équation biologique, mais je pense aussi dans le cas des parents. Tu sais, parfois, il y a des couples qui ont des problèmes de fertilité qui vont demander, des couples hétérosexuels qui vont demander, par exemple, à un frère d'aider ou, tu sais, ça se fait, ça, souvent. Et parce que là, il y a quelque chose de familial et qui va rester proche. Ben, tu sais, nous, c'était important d'avoir, de savoir à qui on avait affaire au niveau génétique, mais aussi au niveau personnel, là, tu sais, dans la connaissance de cette autre partie-là de notre enfant était importante. Mais oui, on aurait pu adopter, oui, mais ça nous, je sais pas, c'était plus inconnu pour nous, c'était presque plus simple d'avoir cette variable-là de, oui, famille peut-être un petit peu plus complexe et à définir, mais... ça paraissait plus simple et plus naturel.
Sylvie a dit quelque chose d'assez intéressant. J'écoutais une émission de radio hier à Radio France Internationale et on disait que pour ce qui est du don en France, c'est complètement anonyme puis c'est une barrière impénétrable. Là. C'est un anonymat total, régi par l'État et très, très renforcé. Mais en plus, l'État choisit le donneur pour qu'il ait des caractéristiques physiques qui correspondent aux parents. Donc, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le gabarit physique, la grandeur, est-ce qu'ils sont plus gros, plus minces, etc. Et là, il me semble qu'on fait intervenir un élément de fiction génétique dans... est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a autre chose qui entre en... Là, j'aimerais vous entendre tout le monde là-dessus, un après l'autre, et puis on pourra peut-être terminer l'émission là-dessus. Oui, Julie?
Bien, mon impression à ce niveau-là est plus que c'est davantage aussi une pratique médicale quand on est en contexte de procréation médicalement assistée. Pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, l'objectif est de faire complètement disparaître le donneur, même au Québec. Hein, l'objectif est de faire disparaître le donneur et d'assimiler le père, si on est dans un cas d'un don de sperme, donc le conjoint qui était dans le cadre du projet parental. On veut faire en sorte que l'enfant on veut faire comme s'il était lié par le sang, par eux, donc de faire comme si c'était une famille complètement conventionnelle. Et c'est quelque chose, c'est une philosophie qu'on retrouve même en contexte d'adoption, parce qu'en contexte d'adoption, du point de vue des dispositions législatives, tout lien de filiation disparaît par rapport à la famille d'origine. Pourquoi? Parce que d'un point de vue légal, l'objectif du législateur est de faire en sorte que cet enfant-là soit complètement assimilé par sa famille, donc sa famille adoptive. Donc, en l'occurrence, on se trouve en contexte de procréation assistée pour les familles hétérosexuelles. C'est juste que quand on est dans un contexte homosexuel, l'enfant voit de lui-même qui est pas né dans une famille où il y a papa, maman, donc le modèle qu'on voit plus traditionnel. Donc à ce moment-là, les dispositions législatives au Québec à ce niveau-là sont absolument merveilleuses. Pourquoi? Parce que on a cette disposition qui a été adoptée en 2002, qui est assez unique en son genre, où la mère, la co-mère, a reçu tous les droits qui normalement sont issus au père. Donc, à ce moment-là, on voit que l'assimilation de l'enfant à une famille traditionnelle, nucléaire, où on va chercher à cacher le donneur, n'est pas là, mais c'est une pratique. Donc, l'appariement, même en contexte médical, on va faire en sorte que le conjoint et le donneur aient des caractéristiques physiques tout à fait semblables.
Permettre l'anonymat, protéger l'anonymat et choisir un donneur qui est physiquement semblable au père ou mère sociale, toutes ces pratiques-là contribuent à l'effort, comme Julie a dit, de faire comme si c'est une famille traditionnelle. Et je crois que notre effort comme société doit aller exactement dans l'autre direction, c'est-à-dire ouvrir notre esprit, nos attitudes au fait qu'on a plusieurs formes de famille aujourd'hui, qu'on a une évolution du concept même de la famille, qu'il y a des enfants qui ont deux mamans, deux papas, un mère sans père, et que toutes ces formes de famille soient acceptées de la même manière par la loi, par notre norme sociale. Donc, quand l'État contribue à cette fixation avec le concept de la famille traditionnelle, je trouve ça une démarche qui n'est pas dans la bonne direction.
Alors, on passe à notre prochaine chronique et on entendra Daniel Weinstock nous faire part de sa plus récente lecture.
« Je parlerai aujourd'hui du livre du philosophe belge Philippe Van Parijs, « Linguistic Justice for Europe and for the World ». Alors, Philippe Van Parijs part de l'observation tout à fait banale que la langue humaine est un mode d'expression, c'est la manière par laquelle nous exprimons nos états intérieurs les plus profonds, mais c'est également un outil, et notamment un outil de coopération. Qui dit coopération dit forcément partage de coûts et de bénéfices, partage qui peut être fort inéquitable. La justice exige que les fruits et les coûts de la coopération et de la coopération linguistique soient équitables, et donc la question qui démarre le livre est à quoi pourrait ressembler une théorie de la justice linguistique vue comme coopération. L'autre constat qui est également tout à fait évident, le constat est que l'anglais est en train de devenir la lingua franca du monde. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Philippe Van Parijs passe une bonne partie du livre à vouloir nous convaincre que c'est essentiellement une bonne chose. Bonne chose pour plusieurs raisons. Ça augmente la possibilité de communication entre gens de toute espèce. La communication est rendue supérieure par le fait que l'on puisse tous parler anglais. Il s'intéresse également à la cause de la justice globale. Philippe Van Parijs estime que si la justice globale n'arrive pas à motiver les gens à agir dans l'état actuel des choses, c'est parce que nous ne nous voyons pas comme constituant avec les gens d'autres pays une communauté. Et la spéculation de Philippe Van Parijs, c'est que l'anglais pourrait devenir la base d'un démos mondial. Donc, généralement, l'anglais comme lingua franca du monde est une bonne chose, mais une bonne chose qui implique des coûts qui ne sont pas également ou équitablement répartis à travers le monde. Les locuteurs d'autres langues doivent investir plus de ressources pour apprendre cette lingua franca que ne doivent le faire les locuteurs de l'anglais comme langue maternelle. Il passe un bon temps à se demander à quoi pourrait ressembler la théorie de transfert qui pourrait faire de sorte que ces coûts soient équitablement partagés, pour en arriver à la conclusion peut-être un peu étonnante que ces savants calculs n'ont que peu de pertinence dans le monde réel parce qu'en fait, l'équité est produite par l'anglais lui-même. Comment? Ben, parce que l'anglais étant devenu la lingua franca du monde, l'anglais produit énormément de matériel culturel que les locuteurs d'autres langues peuvent obtenir gratuitement. Allons sur Internet, allons au cinéma, écoutons de la musique et nous allons avoir accès à l'anglais, accès à des produits culturels anglais et accès à la possibilité d'apprendre l'anglais à faible coût. Il y a toutes sortes de moyens par lesquels l'anglais règle en quelque sorte le problème qu'il génère, coût inéquitablement partagé de par le monde, mais de par la masse de produits culturels que l'anglais génère, possibilité pour régler ce problème sans avoir à mettre en place de lourdes institutions. On pourrait se poser la question de savoir si l'anglicisation du monde équivaudrait pour Philippe Van Parijs à une nécessaire unilinguisation du monde. Est-ce qu'on devrait tout simplement ne pas résister à la montée de l'anglais au point d'accepter que, à terme, dans quelques générations, l'anglais devienne non seulement la langue dominante, mais la seule langue? Et c'est là que la deuxième phase de l'argument de Philippe Van Parijs se met en place. Sa réponse est que non. L'argument principal étant que de laisser subsister une situation dans laquelle d'autres langues seraient appelées à disparaître serait faire preuve à l'endroit des locuteurs de ces langues d'un manque d'estime, ce serait en tout cas ne pas distribuer de manière équitable à travers le monde cette autre ressource importante qu'est pour Philippe Van Parijs, l'estime de soi. La solution pour que le gallois, l'écossais et même le français résistent à la montée de l'anglais et que sur un territoire même petit, elle puisse être la langue ordinaire de toutes les transactions commerciales, éducatives, politiques, etc., etc. Donc, le principe de la justice linguistique territoriale est défendu par Philippe Van Parijs dans, je dirais, à peu près la deuxième moitié du livre, basé, encore une fois, sur l'argument de l'estime réciproque entre locuteurs de différentes langues. La question qui se pose, évidemment, est celle de savoir si 9000 langues parlées actuellement pourraient toutes faire l'objet d'une telle estime. Est-ce qu'on peut imaginer 9000 territoires sur lesquels 9000 langues seraient en quelque sorte maîtresses? Et Philippe Van Parijs est assez lucide pour reconnaître que non. Il y a là donc peut-être une autre faiblesse de son argument. Il y aura dans le monde qu'imagine Philippe Van Parijs le grand gagnant des conflits linguistiques qui est l'anglais. Il y aura ensuite les prétendants qui seront les locuteurs des langues qui sont suffisamment grandes pour pouvoir disposer d'un territoire. Et il y aura une grande proportion des habitants de la planète qui seront locuteurs de langues qui seront appelés à disparaître. Le dernier chapitre du livre, la troisième partie du livre, donc, est probablement la partie la plus spéculative, c'est le chapitre sur la diversité linguistique. Pourquoi pensons-nous qu'il est une bonne chose qu'il existe beaucoup de langues à la surface de la Terre et combien de langues avons-nous besoin, en quelque sorte, à la surface de la Terre si nous acceptons qu'il y en aura demain moins que 9000, mais plus qu'une? C'est le chapitre le plus spéculatif. Je ne suis pas convaincu que Philippe Valparès en arrive à des conclusions qui soient suffisamment fermes pour qu'on puisse dire qu'il y a une théorie de la diversité linguistique, mais le livre se termine donc sur la réponse à la question « How many languages should there be ?» Outre les débats sur le multiculturalisme dont il a beaucoup été question, la question de savoir comment gérer la diversité proprement linguistique en est une qui nous anime énormément ici au Québec et en Amérique du Nord, qui est au centre de certaines des controverses les plus vives en Europe. Je suis convaincu que malgré certaines des lacunes que j'ai identifiées chemin faisant dans le livre de Philippe Valparès, Linguistic Justice sera la pierre de touche pour les débats à venir sur la justice linguistique en philosophie politique.
Si on revient à notre question de l'anonymat des donneurs de gamètes, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, Vardy Travitsky peut-être?
J'aimerais bien que l'appel dans le cas d'Olivia Pratton sera rejeté et que son cas sera réussi et que pour Canada, que le Canada va suivre le Royaume-Uni, la Suède et interdire l'anonymat.
En fait, je peux rebondir là-dessus en soulignant que c'est une problématique qui est tout à fait actuelle, qui malgré que ça remonte quand même, hein, les notions de don de gamètes, ça remonte à quelques années, la question de savoir si on doit remettre en cause l'anonymat, mais va falloir que le gouvernement québécois se repenche sur la question. Même le Barreau du Québec avait fait un appel en 2009 pour savoir si on devait maintenir l'état de la loi québécoise dans l'état actuel. Donc, ce sera inévitable dans les années à venir.
Parfait, mais on va se quitter sur ces derniers mots. Donc l'émission Microéthique se termine ici. Donc, je remercie tous nos invités. Merci Sylvie Brouillette, Julie Cousineau et Vardy Travitsky d'avoir participé à cette émission. Merci à Marc Zafran et à Daniel Weinstock pour leur chronique. Et merci aux auditeurs.
Merci aussi à Xavier, à Agnès et à Paul d'avoir posé des questions très intéressantes. Et pour terminer sur une note de filiation, les auditeurs de Radio Créum assidus à chaque émission se rappelleront sûrement que j'ai déjà fait jouer une chanson de Juanitos. Eh bien, figurez-vous que la fille d'un des musiciens de Juanitos a chanté une merveilleuse chanson qui s'appelle « La glace au citron ». Et son papa lui a fait quelques petites notes pour l'accompagner. Et il s'agit de Miss Emma, qu'on peut trouver encore en diffusion libre très facilement en allant sur le site de Radio Créum pour avoir les liens. Merci à tout le monde et au revoir.